EMCI TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Un plaisir d'être ensemble aujourd'hui, de vous retrouver. Pour un thème qui, peut-être de prime abord, pourrait ne pas donner envie, reçoit la délivrance de l'immoralité sexuelle. On se dit, oh non, pas encore ce sujet où on va me taper sur les doigts. Je vous rassure tout de suite, c'est absolument pas le but. Au contraire, on veut vous aider avec beaucoup de compassion et d'amour et vous donner des solutions. Et nous croyons qu'il y a des choses qui vont se passer, vraiment des mentalités qui vont être changées. Alors, restez avec nous, gardez le cœur ouvert et à la fin de l'émission, vous pourrez vous faire un avis sur cette émission que je partage avec Frank et Ella. Bonjour à tous les deux.
Bonjour
mercredi.
Evelyne.
Bon mercredi, je l'ai
bonjour,
dit hier, hein, c'est notre nouveau chroniqueur.
Bonjour, mon gars.
Eh ouais. Eh ben ouais, on est super bénis de t'avoir.
Mais là, c'est la première émission où on est sur le plateau en même temps.
Bah,
première
oui.
fois.
Est-ce c'est qu'on ça. Peut le souligner? Pourrais-tu faire un chant, Evelyne? Ella, j'ai Frank.
Frank, j'ai toujours demandé ça.
Je me disais dans ma tête, quel chant on pourrait chanter pour souligner ça. Eh bien, j'ai eu ma réponse.
J'y ai juste dû penser à la seconde près. Et ça paraît.
Ça fait peur. Ouh. Tout ce qui se passe dans ta tête en une seconde.
Ah ouais, ça bouge. Je trouve que quand j'y pense dans ta tête, ça doit être assez plat. Quoi.
Ouais.
Ah, c'est sûr que c'est très plat dans ma tête à côté de la tienne et ça me va bien comme ça.
C'est une blague, c'est bon. On est prêt pour l'émission.
On est prêt pour l'émission, eh ouais. C'est ça. Aujourd'hui, on parle de l'immoralité sexuelle. Alors, on parle de grands mots comme ça qui peuvent être un peu dérangeant parfois, puis on n'aime pas parler de ce genre de sujet,
ouais.
Mais c'est un thème très important. Et aujourd'hui, Elhaj, tu seras notre coach et tu vas nous dire comment être libre de l'impudicité, c'est ça?
Vraiment, je sais que tout le monde que je suis va être béni et on va avoir beaucoup, beaucoup de témoignages.
Ouais, amen.
Pas dans la condamnation, mais avec la compassion.
Exactement.
Et la puissance de l'évangile va délivrer plusieurs personnes qui souffrent de ça.
Amen, amen. Vraiment, vraiment. Moi, j'y crois. Et c'est des choses que c'est des choses vécues en plus pour certains d'entre nous. Donc, il y a vraiment une vraie révélation et un vrai changement qui est possible. Ne soyez pas découragés, soyez encouragés. Et on va commencer cette émission avec Frank dans la pensée du jour.
On a déjà fait plusieurs émissions sur ce thème, et ce n'est pas pour rien, mais c'est parce que justement, la Bible en parle beaucoup aussi. On n'est pas les premiers ni les derniers à en parler. Et c'est une réalité dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Tellement d'enfants de Dieu ont des difficultés, des luttes par rapport à ça. Et c'est une réalité. On ne va pas se cacher par rapport à ce qui se passe dans l'Église. Les statistiques le montrent même aussi. Et donc aujourd'hui, je voulais attaquer ce sujet... avec l'axe de l'identité, de qui on est. Parce qu'on a fait d'autres émissions et puis on peut parler de ce thème de différentes manières, je vais le dire comme ça. Il y a l'aspect vraiment spirituel. Mais là, je veux parler de l'identité dans cette pensée. La parole dit, et c'est tellement fort et c'est tellement vrai, que tel un homme pense, tel il est, ou il est comme les pensées de son âme. Le Proverbe 23:7. Donc, il est comme les pensées de son âme. C'est-à-dire que et même d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu parle autant d'être transformé dans notre intelligence. Il y a une telle emphase qui est mise sur le fait d'être transformé et de pouvoir commencer à penser comme pense la parole de Dieu. Je le dis comme ça, c'est un peu drôle, mais c'est-à-dire on s'aligne avec ce que dit Dieu dans sa parole parce que lorsqu'on s'aligne avec ça, naturellement, nos paroles vont changer, nos actions vont changer et la façon qu'on va vivre notre vie va être différente. Et donc, quand on parle d'identité, on regarde un président de pays, il va marcher d'une certaine façon parce qu'il est un président, c'est son identité, c'est qui il est. L'enfant de Dieu est supposé, et Dieu, sa volonté pour ses enfants, c'est qu'on puisse être libre à tout niveau. De toute chose que la parole va condamner, va dire « soyez libérés de ça, ne marchez pas dans l'immoralité, etc. etc. » Lorsqu'on va commencer à penser comme la parole, on va commencer même à pouvoir vivre des délivrances à ce niveau-là. Et ça, c'est tellement, tellement fort. Et donc, en fait, l'apôtre Paul en a parlé. Il a dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour qu'on puisse discerner quelle est la volonté de Dieu. » Aujourd'hui, je veux vous encourager, en commençant cette émission, en vous disant et en vous rappelant que vous êtes des enfants de Dieu.
Amen.
Parce que lorsqu'on commence à s'imaginer et se dire, je suis un enfant de Dieu. J'ai été lavé par le sang de Jésus. Mm-hmm. Mes péchés ont été effacés. Je suis appelé à être saint et à marcher dans la sainteté parce que celui qui m'a appelé, il est saint lui-même et il a fait de mon corps son temple. Waouh, je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis appelé à marcher avec un certain standing. Il y a un standard dans la vie de l'enfant de Dieu qui doit être recherché. On devrait même s'attendre, on ne devrait pas s'attendre à moins, en fait. On est des enfants de Dieu et Dieu habite en nous. Il veut nous amener naturellement à marcher dans la sainteté. Et lorsque on est suffisamment proche de Jésus, qu'on se rapproche de lui, et là, je vais donner trois points, et j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions, mais c'est parce que c'est tellement des clés, c'est tellement la réalité. Lorsqu'on s'approche de plus en plus de Dieu, lorsque la crainte de Dieu est présente dans notre vie, et lorsque nos pensées vont être renouvelées, il va y avoir, c'est comme un mélange qui va amener une personne à grandir, à maturer spirituellement. Et lorsqu'on mature spirituellement, on regarde des choses qu'on faisait dans le passé, on se dit, mais qu'est-ce que je faisais à vivre comme ça? Parce qu'on a grandi dans notre stature, dans notre identité d'enfant de Dieu. Notre nature même, la nature divine en nous, nous pousse à une vie de sainteté. Et donc, on peut, et c'est tout à fait normal. Et moi-même, aujourd'hui, je peux le dire, qu'est-ce que je faisais à écouter cette musique? Mais comment est-ce que je me plaisais à écouter cette musique? Comment est-ce que je regardais ou j'écoutais ou je faisais telle chose? Mais aujourd'hui, je me dis, waouh! Le Seigneur m'a amené tellement ailleurs. Et c'est parce que dans mon identité, j'ai su apprendre et comprendre qui j'étais et j'ai avancé là-dedans. Et donc aujourd'hui, par rapport à l'immoralité, je voulais vous partager ce point de l'identité. On va en parler dans la discussion. Mais c'est une telle grâce de pouvoir vivre cette transformation liée à l'identité.
Merci, Frank. Merci beaucoup pour cette pensée ultra complète. Tu nous as fait un enseignement, finalement.
C'était vite.
Très puissant.
Très, très riche.
Très fort.
Et puis, on va pouvoir, tout à l'heure, avec ta rubrique Conseil du coach, vraiment vous apporter des solutions concrètes. Mais avant ça, c'est important, avant d'avoir des solutions, il faut discerner, en fait, le problème. Il faut l'identifier. Parce qu'en fait, si on ne sait pas qu'il y a un problème, on ne sait pas qu'on a besoin d'une solution. Et c'est important de comprendre, tu l'as un peu abordé dans ta pensée, mais cette notion, c'est ça, de cette marche dans la sanctification. Et la Bible nous en parle de tellement d'endroits. Mais il y a un verset en particulier qui parle justement de l'immoralité sexuelle en lien avec la sanctification. C'est notre verset du jour. 1 Thessaloniciens 4, au verset 3, nous dit ce que Dieu veut. Et c'est assez clair, hein, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Et si on continue, le verset 4 dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et en fait, ce verset nous parle clairement d'immoralité sexuelle. Et l'immoralité sexuelle, qu'est-ce que c'est en fait? Moi, je me souviens, pour ceux qui avez écouté mon témoignage, vous savez que quand j'ai découvert ce mot, j'allais le chercher dans le dictionnaire. On m'en a parlé à l'église, j'étais dans une situation exactement comme décrite ici, et on m'a parlé de ce mot, j'ai cherché dans le dictionnaire, j'essayais de comprendre qu'est-ce que c'est. Et en fait, c'est toute relation qui est faite hors du cadre voulu par Dieu. Et le cadre voulu par Dieu, il est très simple, c'est un homme et une femme consentant dans le cadre du mariage. Voici tout ce qui n'est pas dans l'immoralité sexuelle, c'est simplement ça. Tout ce qui est fait en dehors, de toutes sortes de façons, de toutes sortes de manières possibles, avec toutes sortes de personnes, c'est de l'immoralité sexuelle, en fait. C'est tout ce qui ne rentre pas dans le cadre voulu et prédéfini par Dieu au niveau de la sexualité. Et en fait, quand on comprend ça, déjà, bon, on pose le tableau, et puis peut-être certains d'entre vous vous dites « Ah ben mince, je ne le savais pas. Ben, » vous l'apprenez aujourd'hui. Et en fait, on le voit au travers de ce verset, quand on marche dans l'immoralité sexuelle, on ne marche pas dans une vie de sanctification. Les deux ne sont simplement pas compatibles, en fait. Et dans ce texte-là, l'apôtre Paul est très clair, il dit « Ceux qui ne connaissent pas Dieu, eux, ils ne sont pas dérangés par ça. Ils peuvent se livrer à des passions, à des convoitises, à ce que leur corps leur dicte de faire, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, c'est normal. Mais un enfant de Dieu, C'est anormal.
Et en fait, c'est ça. Et puis Galates 5 le décrit tellement bien, c'est cette lutte entre la chair et l'esprit. Mm-hmm. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la nature divine de Dieu en nous, mm-hmm. l'esprit de Dieu en nous. Elle veut se manifester. L'esprit de Dieu veut prendre toute la place. Le Saint-Esprit veut prendre toute la place dans notre vie. Mais il y a la nature charnelle qui tend vers le péché, vers les mm-hmm. choses qui sont de la chair. Et c'est là la lutte qui est tellement forte aujourd'hui. C'est pour ça que quand j'ai dit on est enfant de Dieu, qu'est-ce qui fait de nous des enfants de Dieu? Qui fait qu'on est des enfants de Dieu? C'est qu'on est né nouveau. On a le Saint-Esprit en nous, dans notre esprit. Et c'est ça qui fait toute la différence. Mm-hmm. Parce que sinon, ben, on est livré, entre guillemets, à nous-mêmes, face aux désirs de la chair qui sont là à vouloir nous tirer d'un côté. Et puis, c'est la guerre qui est illustrée. Elle ne date pas d'hier. Mm-hmm. L'apôtre Paul en a parlé il y a 2000 ans.
Et Franck, ce que tu as dit à propos de l'identité,
ouais.
je pense que c'est vraiment une clé importante. Parce que quand on sait qui on est en Christ, les choses à l'égard de l'immoralité, l'impudicité, ce n'est plus quelque chose qu'on travaille pour ne pas faire. Mm. Parce que notre nouvelle identité nous amène dans un cadre nouveau. Nous avons été rachetés des ténèbres et nous amenés dans sa lumière merveilleuse. Lorsque on rentre dans les Écritures, notre pensée est renouvelée. Mm. En renouvelant notre pensée, ce qui était agréable hier n'est plus agréable aujourd'hui. Ce qui est acceptable hier n'est plus acceptable. Pas parce que quelqu'un nous suit avec un bâton.
Non, au contraire.
C'est juste l'œuvre de l'Esprit Saint, la révélation de la parole qui nous libère. Cette divinité qui est en nous, parce que Christ vit en nous, il commence à vivre maintenant à travers nous. Comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis, c'est Christ qui la vit.
Ouais.
Et je pense que c'est pour ça que c'est important que ceux qui nous suivent sachent que tu ne deals pas avec un problème que c'est toi seul. La tentation, elle est commune à tout individu.
Mm-hmm.
Ce qui fait le côté difficile de l'impudicité ou de l'immoralité sexuelle, c'est que Dieu a donné à l'homme le cadeau de l'intimité.
Mm-hmm.
Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient de dehors. C'est quelque chose qui est déjà mis en toi en tant qu'individu, sauvé ou non sauvé.
Ouais.
Il y a un désir à quelque part pour l'intimité.
Mm-hmm.
Et Evelyne l'a dit bien, c'est lorsqu'on veut l'accomplir, ce désir, en dehors des limites que Dieu nous a placées, c'est ça qui devient un problème.
Mm-hmm.
Mais quand on se réveille à la révélation de qui nous sommes en Christ, je pense que Paul le dit aux Corinthiens, ou dans une église où ils étaient très doués dans des dons, mais beaucoup d'impudicité,
mm-hmm.
il dit « Réveille-toi à la justice et ne pêche plus.
Mm-hmm. »
En d'autres termes, réveille-toi à voir qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour toi, qu'il t'a transféré de l'obscurité dans sa lumière merveilleuse,
mm-hmm.
à réveille-toi à savoir que le prix a été déjà payé, que le péché n'a pas de poids sur nous. Réveille-toi à cette justice, à l'amour et à l'acceptance.
Amen.
Je pense que c'est l'identité de nous en tant que chrétiens et c'est ça qui nous aide à être libérés de l'impudicité.
Vraiment, c'est ça. C'est tellement important, puis tu vas en parler dans quelques minutes. C'est tellement important de ne pas marcher sous la condamnation, de ne pas sans arrêt se condamner, se dire j'ai encore chuté, j'ai encore échoué. Et puis aller même jusqu'à remettre en question son salut, son identité. Non, ce n'est pas parce que vous avez du mal avec quelque chose que vous tombez parfois dans cette chose-là, mais vous vous relevez, vous vous repentez, vous voulez sincèrement changer. Vous ne perdez pas votre salut à chaque fois que vous chutez, que vous tombez. Et celui qui veut vous faire croire le contraire, c'est simplement le diable qui veut vous condamner, vous mettre sous un joug, vous écraser, vous faire croire que Dieu ne veut plus de vous et pour vous éloigner de Dieu. C'est simplement ça le plan. Mais sachez que Dieu continue à vous aimer, à vous accueillir.
Amen.
Il veut votre transformation,
Amen.
Oui. Il veut votre repentance, c'est certain. Mais il veut vous garder surtout. Il veut vous garder avec lui et il continue à vous aimer malgré tout. Et on va continuer parce que je veux vraiment que tu puisses rentrer dans tes points. Je sais que ça peut amener une vraie transformation. Donc, on va enchaîner avec la rubrique Conseil du coach.
Et nous voici encore, comment être libéré de l'impudicité.
Mmh.
Avant de commencer à donner les points, permettez-moi de vous dire que c'est un péché comme tout autre. Ce n'est pas quelque chose qui fait que vous êtes rejeté par Dieu, comme Evelyne le disait, et qu'il n'y a pas de solution. Il y a une solution.
Oui.
En Christ, il y en a une solution. Et je prie pour ceux qui le suivent aujourd'hui, qu'avant que je ne finisse, tu commences à voir l'œuvre de l'Esprit-Saint. Parce que tu as donné ton oreille et le Seigneur t'a amené à regarder cette émission. Il va te délivrer non seulement de l'impudicité, mais de la honte qui est attachée à cela également. Mmh. Voilà mon premier point. Je vais lire d'abord deux Écritures. Et 1 Thessaloniciens 4, 3, 5, Evelyne l'avait déjà lu, je vais le relire encore. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est le premier verset. Deuxième, dans Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 28 au verset 29. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Mmh. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Voici mon premier point. Numéro 1, il faut que tu puisses admettre que vraiment, j'ai un problème. Mmh. Sans le justifier, sans mettre des excuses, vous savez, juste l'admettre. Mmh. J'ai un verset qui m'a libéré et qui a libéré plusieurs personnes autour de moi. Et c'est 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, j'aimerais le lire. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Vous voyez, deux fois tu peux avoir un regret, mais en réalité c'est une condamnation. Mmh. C'est la culpabilité qui est attachée à l'acte du péché. Et c'est cette culpabilité et c'est cette condamnation qui fait que deux fois tu n'es pas capable de te relever et d'être libéré du joug de l'impudicité. Mmh. L'impudicité devient maintenant un contrôle parce qu'il y a la honte qui est attachée à ça. Donc, ça t'embête que tu le fais parce que tu as une tristesse du monde. La tristesse du monde produit la honte. La tristesse du monde produit la culpabilité. La tristesse du monde produit la condamnation. Mais la tristesse de Dieu amène à la vraie repentance, un changement total et complet. Qu'est-ce que je veux dire? Quand la tristesse de Dieu vient sur toi, elle ne vient pas juste te montrer que quelque chose ne va pas. Elle vient aussi te donner les moyens, la grâce dont tu as besoin de pouvoir sortir de là. Amen. Vous voyez, la honte dit « quelque chose ne va pas avec moi ». Ça, c'est la honte qui parle comme ça. Elle te condamne, toi, pas l'acte que tu fais. Vous voyez? Plusieurs de vous qui me suivez aujourd'hui, ce n'est plus l'acte de l'impudicité qui est le problème. C'est le fait que tu penses que quelque chose est brisé avec moi, quelque chose ne va pas avec moi. Mmh. Vous vous mettez le doigt contre vous. Si Dieu ne vous condamne pas et que vous vous condamnez, ça devient difficile de vous libérer du joug de l'impudicité. Donc, alors que la tristesse de Dieu dit, ce n'est pas quelque chose qui ne va pas avec toi. C'est l'acte que tu as posé. Ce n'est pas toi, c'est l'acte. Il y a une différence ici et je pense que c'est l'importante. Alors, numéro un, reconnaissez et cherchons la tristesse de Dieu qui mène à la repentance vraie. Numéro deux, prenez un temps de jeûne et de prière. Je ne vais pas vous rendre religieux. Le jeûne et la prière dans ce cadre-là, ce n'est pas pour que vous soyez libérés du péché. Parce que quand vous reconnaissez dans le premier point que vous avez péché et que la tristesse divine vient sur vous et vous amène à la repentance, vous êtes pardonné. Mm-hmm. Jean le dit dans 1 Jean 9, il dit, si vous confessez de vos péchés avec un cœur sincère, Dieu est juste pour nous pardonner de toute notre iniquité et de tous nos péchés. Maintenant, le point 2 du jeûne et prière, ce n'est pas pour la libération de l'impudicité. Vous êtes déjà pardonné, mais plutôt vous rapprocher de Dieu.
Amen.
On a besoin de fois d'une rencontre avec la révélation de Dieu, avec la révélation de la parole. Donc, dans ces jeûnes et prières, déversez-vous, ouvrez votre cœur au Seigneur. Il n'a pas changé son plan à ton égard. Il sait que tu es fragile, il sait que tu as des regrets, il sait que ça te fait mal de le faire. Ouvre-toi à l'Éternel. Et cette rencontre va renouveler ton intimité avec le Seigneur. Vous vous rappelez ce que Yveline disait? Lorsque ce péché rentre, il essaie de nous séparer de Dieu par la condamnation. Et avant que tu ne réalises, tu ne veux plus prier. Tu as même honte d'aller à l'église. Oui. Tu as même honte d'entendre une prédication. Même la louange, un chant chrétien te fait fuir. Tu commences à te séparer de tes amis. Tu commences, quand tu les vois, tu te caches. Vous voyez? Et c'est cette séparation de Dieu et aussi de tes frères et sœurs, de la communauté fraternelle. C'est ça le but de cette impudicité. C'est pour ça que quand vous prenez ce temps de jeûne et de retraite, c'est vous rapprocher de Dieu.
Amen.
C'est de savoir que Jésus vous aime. Vous savez parce qu'il n'est pas là pour vous rejeter. Ce jeûne et prière vous ravit vos rêves avec l'Éternel du passé. L'appel est renouvelé. Mm-hmm. La joie que vous avez perdue est renouvelée. Il y a une nouvelle paix qui rentre là. Et pendant ces périodes, Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois même les belles choses à venir qu'il a pour toi. Il dépose un nouveau manteau sur toi. Comme il a changé les habits du sacerdote Josué, il change tes habits. Tu te reconnectes à la justice de Jésus-Christ qu'il a gagné pour toi et moi à la croix de Golgotha. Ce n'était pas mon œuvre, c'était son œuvre. Frères et sœurs, c'est Jésus par son sang qui libère.
Amen.
Point numéro 3. Est un système pour rendre compte, un système de rédivabilité. Et je sais que plusieurs personnes qui nous regardent des fois ont peur de s'ouvrir, même souvent à des pasteurs. Parce que des fois, les gens se sont ouverts et puis leur histoire est devenue sur les nouvelles. Tout le monde en parle. Ça devient une affaire publique. Et je sais que plusieurs ont été blessés. On n'a plus confiance aux leaders de l'Église. On garde ça entre nous. Et le diable peut utiliser ça pour vous garder dans la solitude, dans l'isolation. Alors, je vais te demander que le Seigneur te guide pour que tu trouves une personne à qui tu peux t'ouvrir, la rédivabilité. Quelqu'un peut te supporter émotionnellement, qui ne va pas te juger. Quelqu'un va prier avec toi, qui va t'encourager, qui va te porter lorsque tu es faible. C'est pour ça que la rédivabilité est importante. C'est pour t'encourager, ce n'est pas pour te moquer ou te juger.
Oui.
Point numéro 4. Établir des limites protectrices.
Mm-hmm.
C'est mieux de prévenir que de guérir. Tu dois devenir sage.
Mm.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des émissions peut-être que tu ne dois pas suivre à la télévision ou des films qu'il ne faut pas regarder. Peut-être que ton téléphone devient un problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut mettre des limites. Peut-être qu'il ne faut pas rencontrer des gens du sexe opposé à certaines places. Peut-être ne pas fréquenter des places, même géographiques,
mm-hmm.
ou même souvent ne pas fréquenter certaines personnes. Parce que quand vous êtes ensemble, ça vous traîne dans l'impudicité. Mm-hmm. Ça vous remet en arrière.
Mm-hmm.
Donc, il y a une séparation que Dieu demande. Ce n'est pas seulement l'impudicité, mais aussi le cercle autour de vous. Il y a quelques années, j'ai prié pour les prostituées, elles étaient libérées, ou les gens qui avaient des problèmes avec l'alcoolisme. Et après 3 mois, ils retournaient là-dedans. Une fois, je demande au Seigneur, je dis, mais Seigneur, pourquoi ils retournent dans l'alcool? Il me dit, tu les as libérés de l'alcool, mais tu ne les as pas libérés du bar.
Mmh.
En d'autres termes, leur environnement aussi compte. Et c'est pour ça qu'on a besoin de limites protectrices, certaines formes de divertissement. Fuyez ça. Mais, il dit, fuis l'impudicité. Il ne faut pas être fort à confronter, non, fuis.
C'est vrai.
Tu n'es pas faible, tu es sage.
Mm-hmm.
Fuis l'impudicité.
Amen.
Et numéro 5, découvrir une nouvelle passion. Onésimus était voleur. Quand il a été délivré, il est devenu généreux.
Mm.
Donc, à quelque part, c'est de trouver une nouvelle passion. Rentrer peut-être dans l'équipe de louange, servir, vous connecter un peu plus fortement à la communauté chrétienne. Voir de nouveaux rêves dans le Seigneur. Et en tout, une nouvelle passion peut être peut-être vouloir découvrir Dieu dans son intimité, dans son pardon, voir son amour. Une nouvelle passion, ça veut dire ce que Dieu vous a révélé maintenant comme poursuite. Vous avez maintenant des plans, vous voyez maintenant l'avenir. Vous voyez, quand on voit l'avenir, c'est difficile de retourner derrière.
Uh-huh.
La plupart de nos rétrogrades, c'est lorsqu'on n'a pas de vision pour devant.
C'est vrai.
Et on a une vision du lendemain, on commence à mettre nos efforts là, notre concentration là. Juste pour conclure, c'est de porter les yeux sur Jésus-Christ.
Oui.
Comme Paul a dit, deux fois, je vais faire ce qui est juste, je me retrouve à faire ce qui est injuste. Qui va me libérer de ce corps charnel? Et il donne la réponse, personne, mais Jésus-Christ.
Yes.
Alléluia.
Enlève les yeux sur toi, enlève les yeux sur l'impudicité, enlève les yeux sur les bavardages des gens, enlève les yeux sur tout. Garde les yeux sur Jésus-Christ et son œuvre finale à la croix de Golgotha. C'est là que tu tires tes forces pour marcher dans la liberté totale et complète.
Amen.
Tu connaîtras la vérité et cette vérité t'affranchira. Donc je prie qu'une grâce spéciale se dépose sur toi, toi qui me suis, et que la révélation de Christ et son œuvre à la croix,
yes,
que l'identité de qui tu es en Christ te soit révélée, que tu vois que tu es un enfant de la lumière, je brise la condamnation, la culpabilité, et que tu ressens l'amour de Jésus-Christ qui te couvre comme un manteau et qui t'embrasse en disant « Mon fils, je t'aime. Ma fille, je t'aime, je n'ai pas changé de plan à ton égard. » C'est ça ma prière pour vous.
Merci, Jésus.
Et je sais que plusieurs personnes seront délivrées en écoutant encore ça. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen.
Merci, Seigneur.
Amen. Merci. Très, très bonne rubrique. Vraiment, merci. Des clés tellement simples en réalité, si on réfléchit bien. On a tellement compliqué ce domaine-là et on a tellement dit aux gens, tu dois arrêter, tu dois résister, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et aujourd'hui, en fait, ce que tu apportes, c'est simplement fixe tes yeux sur Jésus.
Amen.
Concentre-toi sur lui, approche-toi de lui.
Mm.
Et plus vous allez vous connecter à Jésus, plus ce renouvellement d'intelligence
Amen.
Dont Frank parlait dans cette pensée va se placer en vous, cette mentalité va être transformée. Et je le dis parce que je l'ai moi-même vécu, pour ceux qui avaient écouté mon histoire, c'est quelque chose qui s'est passé. J'ai essayé par moi-même pendant un an de comprendre, de saisir en quoi c'était mauvais, en quoi c'était mal. Mais rien à faire, je ne comprenais pas. On avait beau me l'expliquer, je ne comprenais pas. Mais quand le Saint-Esprit lui-même m'a visité, quand j'ai eu cette rencontre avec Jésus-Christ, une rencontre vraiment personnelle et intime, au travers d'un temps de jeûne et prière, justement,
puissant.
Eh bien là, c'est comme si la mentalité de Dieu a été téléchargée dans ma tête. J'avais plus besoin de comprendre. Je savais tout simplement. La vérité était rentrée
Alléluia.
En moi. J'avais plus aucun doute. Alors ne vous mettez pas de pression à vous changer par vous-même. Laissez Jésus-Christ faire le changement
Amen.
Lui-même en vous. Vous allez vivre cette transformation.
Yes.
Vraiment, passez du temps avec lui. Merci, c'était vraiment une belle, belle émission.
Merci,
et je crois qu'elle va porter
Merci.
Du fruit, comme
yes.
tu l'as dit en début d'émission. Et vous pouvez nous envoyer vos témoignages, hein, laissez quelques semaines, quelques mois passer, mais écrivez-nous vos témoignages, emcitv.com/témoignages, c'est l'adresse pour remplir le formulaire. On veut savoir comment Dieu a agi dans vos vies. Ah, vraiment, merci Seigneur. Alors demain on se retrouve, on parle d'un autre thème, comment intercéder efficacement par le Saint-Esprit. Et on aura Omer qui sera avec nous pour faire une rubrique réponse d'experts. Il va nous aider à comprendre Romains 8, 26. Vous pouvez déjà aller chercher dans vos Bibles ce que c'est.
Ça va être une bonne émission.
Ça va être une très bonne émission. Alors on vous dit à demain et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.